Bonjour, d'abord merci aux organisateurs pour leur accueil et pour avoir pensé à l'association Survie pour présenter un peu notre analyse là-dessus. Et donc présenter notre analyse sur la question de Mayotte revient à expliquer comment s'est passée son histoire depuis l'arrivée de la France. Alors, je vais partir du discours colonial pour voir ce qu'il y aurait éventuellement à retoucher dans ce discours, le discours colonial et le discours officiel bontain d'aujourd'hui. D'abord, on est dans le cadre des schémas classiques hein, concernant la colonisation. Hein, vous le savez, on est allé dans des pays où il n'y avait que des tribus qui se détestaient depuis toujours et qui se faisaient la guerre. La France est arrivée pour introduire la paix et la civilisation. Puis, oh, certainement poussés par Moscou, ils se sont piqués de vouloir se gouverner eux-mêmes. Et la France, grande et généreuse, a été à l'écoute de ses peuples et leur a accordé l'indépendance lorsqu'ils la voulaient. S'ils ont demandé à la France de continuer à les aider, on a changé la colonie en outre-mer, une formule au statut bien défini, à la carte, etc. Donc voilà pour le discours officiel. Surtout, jamais un mot évidemment sur la façon dont on a éliminer les vrais mouvements indépendantistes qui avaient des projets pour leur zone politique. Alors, ce discours colonial adapté à l'archipel des Comores plutôt que Mayotte, puisque l'histoire est liée évidemment, c'est l'archipel aux sultans batailleurs, donc personne n'était capable de s'entendre dans ces endroits-là, ils se font la guerre depuis toujours, et puis la France est arrivée pour sauver d'abord l'île de Mayotte des marasmes de la politique locale. C'était en 1841, à l'appel des Maorés, elle est venue s'occuper de cette île. Puis dans les décennies qui ont suivi, les autres îles aussi ont demandé à la France de venir les sauver de leur incurie locale. Et c'est ainsi qu'en quelques décennies, la France a possédé tout l'archipel des Comores. Avec le souci constant des populations et donc de faire évoluer les statuts, notamment en 1946 avec le statut de territoire d'outre-mer, pour améliorer le quotidien de ces populations. Et puis, dès que ces populations ont voulu ont eu des velléités d'indépendance, on les a consultés. Ceux qui voulaient leur indépendance, bien, on leur a accordé de bonnes grâces. Et puis, ceux qui voulaient rester français, eh bien, allez, le contribuable français va faire un effort, ça nous coûte cher, mais bon, on veut bien, puisque vous nous le demandez, rester gérer l'île donc de Mayotte. Et puis, les Maorés, comme ils ont vraiment un sentiment français très fort, qu'ils étaient même français avant les Savoyards et les Niçois, eh bien, puisqu'ils l'ont demandé, on leur a accordé un statut plus proche de la France et ils sont devenus le 101e département français. Chaque mot que je viens de vous prononcer est faux, enfin que je viens de citer plutôt. Donc on va revenir un petit peu sur cette histoire en partant de 1841. Donc, il y avait en effet des batailles entre les îles, des batailles entre sultans. Il y a un sultan qui était arrivé à peu près à dominer sur l'île de Mayotte, mais il ne la contrôlait pas encore. Les batailles étaient en cours et il a signé un pacte. Lui, un parmi les autres sultans qui disputaient Mayotte, à un moment où il était en position de force, il a signé un pacte pour céder contre une obole Mayotte à la France. Alors, même une obole, c'est des études pour son fils et une compensation financière qui correspondra à peu près à acheter un terrain pour y construire une maison, quoi. Même pas. Donc vous voyez comment on est venu rattacher à la France toute une île. Ensuite, donc déjà l'annexion était une escroquerie, hein. On a signé un traité livrant Mayotte à la France avec quelqu'un qui ne la possédait pas, qui n'en était pas le gouverneur ni rien. Et donc après, les autres annexions ont suivi. Et pour ce qui est des Maorés français depuis longtemps, etc., c'est totalement faux aussi, puisque les statuts ont évolué. Et c'est seulement en 1946, avec le statut de territoire d'outre-mer, que les Maorés sont devenus français, mais avec tous les autres Comoriens. Tous les Comoriens sont devenus français pour la première fois en 1946. Ça faisait longtemps que les Niçois étaient français et les Savoyards aussi. Hein. Donc ce discours que l'on entend répéter à satiété par le petit blanc de Mayotte jusqu'au président de la République, en passant évidemment par toute notre représentation parlementaire dès qu'on lui demande son avis sur Mayotte, déjà tout ça c'est faux. Bon, la suite est des arguments est fausse aussi. Donc les velléités d'indépendance sur l'archipel des Comores se sont manifestées notamment au moment où de Gaulle changeait les statuts de l'outre-mer autour d'un processus qui a commencé qui a surtout été entamé en 1958. Le tome des Comores, sa direction politique était à Mayotte, puisque c'était les chouchous des Français qui y étaient depuis plus longtemps. L'élite mahoraise demandait plus d'autonomie, peut-être pas tout à fait l'indépendance, mais avait des velléités qui dérangeaient un peu le Paris. Et c'est là que ce changement de statut tombait bien, puisque le gouvernement se faisait à la représentation, et Mayotte est une des îles les moins peuplées. Donc il y a deux îles très peuplées, la Grande Comore et puis Anjouan, et puis deux îles peu peuplées, Mayotte et Mohéli, sur l'archipel des Comores. Donc avec la nouvelle représentation du territoire des Comores, du tome Comores, le pouvoir est passé à Moroni, sur la Grande Comore, c'est-à-dire à l'opposé de l'archipel par rapport à Mayotte. Et c'est cette période où les Mahorais ont vu partir le pouvoir politique et le pouvoir économique aussi, un peu le centre économique des Comores, c'était Mayotte, avec la capitale qui se déplace, etc. Tout commence à partir à Moroni. Les Mahorais se sentent dépossédés, et c'est là que naît ce sentiment pro-français, ce mot d'ordre de la départementalisation. C'est autour de 1960 que se crée le mouvement un premier mouvement départementaliste mahorais, qui disait comment ça, mais nous ne sommes plus français, Mayotte appartient à la France depuis plus longtemps, nous voulons être un département pour retrouver un centre administratif, notre centre économique, etc., puisque tout vient de partir à Moroni. Donc là est née la rancœur des Mahorais, hein, c'est soi-disant des tribales ancestrales, la rancœur des Mahorais contre les Comoriens, en particulier de la Grande Comore, puisque le pouvoir partait vers là, donc l'association d'idées qui leur vient, c'est eux qui nous prennent tout. Oui, mais tout a été décidé à Paris. Mais bon, c'est eux qui nous prennent tout. Donc c'est le premier grand outil de division des îles, de création de ce sentiment mahorais, comme on nous parle tout le temps de sentiment mahorais, très français, etc. C'est le pouvoir qui s'en va à Moroni sur décision de Paris. Dans les années qui suivent, donc ce tome des Comores, on place Jacques Faucard, je ne refais plus la biographie, place ensuite à la direction de ce tome celui qui contrôle l'importation du riz sur l'archipel des Comores, avec un associé indien, il s'appelle Ahmed Abdallah, et il est placé à la tête des Comores par volonté de Jacques Faucard, il le dit lui-même, envers et contre toute la classe politique française. Donc c'est parmi tous ces chefs d'État que Faucard a placés, il n'y en a que deux ou trois qui ont été contestés par la classe politique française, dont Ahmed Abdallah. Donc il y tenait, c'est vraiment la créature faucartienne, c'est celui qui importe le riz aux Comores. Tout le riz à peu près consommé aux Comores est importé par Ahmed Abdallah avec son associé. Il est censé mener une politique d'autonomie et notamment d'agriculture, etc. Évidemment, il n'en fera rien. Voilà un petit peu le genre de personnage que Paris met à la tête du tome Comores. Et ce personnage s'emploie particulièrement à persécuter les Mahorais. Les préfets vont sur Mayotte, narguent les Mahorais, etc. Donc, deuxième ingrédient extrêmement important, même le plus important, encore plus que la perte du pouvoir politique et du pouvoir économique, deuxième ingrédient du ressentiment des Mahorais contre les autres Comoriens, en partie contre la Grande Comore. On a construit un système, Paris a construit un système, cette fois c'est la cellule africaine de l'Élysée, Jacques Faucard, qui persécute les Maorais, y voit une dictature prédatrice, etc. Alors, quand approchent les référendums, pardon, les consultations pour l'indépendance au début des années 1970, eh bien, il y a dans les élites mahoraises, chez les notables mahorais, bon, les autres on n'en parle pas, il y a un peu une façon d'agir politiquement qui est que, bon, c'est des populations peu instruites, etc. On a des villages, des hameaux qui suivent le notable, le chef local sur ce qu'il faudra voter aux indépendances. Donc c'est l'avis des notables qui compte, hein. Je parle surtout de l'élite mahoraise. Donc ceux-là voient l'épouvantail Abdallah. La dictature qui s'annonce, les persécutions, ils ont vu leur pouvoir économique et politique partir. Donc, ils sont majoritairement contre l'indépendance. Ils sont toujours sur la lancée de ce mouvement départementaliste pour que Mayotte soit française, même si le reste des Comores l'est plus, surtout si le reste des Comores l'est plus. Et les représentants de cette élite, les représentants maorais, ceux qui seront élus ensuite, aussi bien que les autorités françaises comme Pierre Messmer ou quoi, diront dans toutes les missions d'information parlementaire, dans les documentaires et tout, tous l'avoueront, que ce mot d'ordre « rester français pour être libre », ce que disaient les Maorais, ça voulait dire simplement qu'ils ne voulaient pas être sous le gouvernement d'Abdallah, et s'il y avait eu un autre régime aux Comores, c'est bien pour ne refuser le régime Abdallah qu'ils ont voulu refuser l'indépendance. C'est un régime qu'ils craignaient, ça n'est pas l'indépendance. Donc ça, c'est extrêmement important, hein, de voir comment a été construit ce sentiment pro-français à Mayotte, puisque évidemment la pierre angulaire du discours sur Mayotte, je crois que j'ai obligé de le citer tellement il est évident, c'est les Maorais qui ont choisi de rester français, c'est leur choix, respectons-le. Qu'est-ce que c'est cette histoire de dire que Mayotte est comorienne? Bon, donc tout ça a été construit de cette manière-là. Alors, lors d'un référendum pour l'indépendance, il y a un droit international. L'ONU impose que pour éviter les balkanisations, les guerres sécessionnistes au moment de l'indépendance, pour qu'il y ait une stabilité politique, à l'instant de la décolonisation, on respecte les frontières issues de la colonisation. On n'a pas le droit de les remettre en question. Donc, la France, au lieu de faire, comme elle s'y était engagée, un référendum qui soit clairement annoncé comme un référendum que l'on dépouille globalement, elle le voit avec des arguties assez incroyables, elle opère une consultation, avant que la consultation ait lieu, on ne saura qu'après si c'était un référendum ou pas, enfin je passe sur toutes les péripéties. Bref, cette consultation fait apparaître un 95% du territoire des Comores de oui à l'indépendance, mais quand on dépouille île par île, c'était 99 à 100% sur toutes les îles, sauf à Mayotte. Mayotte, ça représente 8% du corps électoral, et sur ces 8%, il y a 63% qui ont voté non à l'indépendance. Et ça suffira à la France pour mépriser le droit international et dire ah bien, à Mayotte, Mayotte a dit non à l'indépendance, Mayotte veut rester française. Donc l'ONU a tout de suite hurlé, c'est illégal, il faut respecter les frontières, etc. Mais voilà sur quoi on a joué. Alors ces votes, hein, c'est des votes avec des bulletins de couleur et un village amène un sac de bulletins de la même couleur, c'est le notable qui choisit, hein. Alors après, la France, pour faire mine de valider ça en droit, a organisé. Alors ça, c'était en 1975. Pendant la première consultation, c'était peut-être fin 1974. 1975, on dépouille, on argutie. Et donc la France organise en 1976 un référendum à Mayotte pour leur faire confirmer qu'ils veulent rester français. Et alors là, il y a les départementalistes qui disent, oh ben, on ne veut pas devenir comme ça français avec notre territoire d'outre-mer, on veut la départementalisation tout de suite. Ils impriment des bulletins de vote, des faux bulletins de vote, donc illégitimes, hein, puisque non officiels, pour dire oui à la départementalisation, au lieu que ce soit oui à rester un territoire d'outre-mer. Et donc, au dépouillement de ce référendum de 1976, il y a une minorité de oui, une minorité de non. Les oui ne suffisent pas à atteindre le quota pour que le vote soit valide. Et une majorité de ces bulletins factices pour dire la départementalisation tout de suite ou quelque chose comme ça. On ne va pas mégoter, on additionne les bulletins factices avec les oui et les bulletins officiels. Vous voyez de quelle souplesse est capable notre République quand il s'agit de faire le bien des populations, voilà. Et c'est toutes ces arguties, ces référendums illégaux, ces machins, référendums condamnés par avance à l'ONU. La France a été seule à poser son veto contre une résolution condamnant la France pour interdire ce référendum par le Conseil de sécurité, un truc comme ça, un truc absolument incroyable. On passe en force, voilà. Donc c'est comme ça que Mayotte reste française, alors que donc en 1975, en voyant la façon dont louvoie Paris pour interpréter la consultation globale des quatre îles, en voyant qu'on ne veut pas dire clairement que c'est un référendum d'indépendance et que les Comores sont indépendantes, donc le 6 juillet 1975, Ahmed Abdallah, pourtant la marionnette de Focard, là, il se pose contre la France pour déclarer unilatéralement l'indépendance des Comores. Ce qui sera validé quelques mois plus tard à l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, dès mi-novembre 1975, l'ONU reconnaît l'indépendance des Comores, l'admet comme membre de l'ONU et déclare définitivement que cet État des Comores est composé des quatre îles, donc y compris Mayotte. Et dans sa résolution, condamne l'occupation illégale de territoire par la France à Mayotte, exhorte la France de quitter le territoire, etc. Chaque année, pendant 20 ans, cette question sera retraitée à l'Assemblée générale de l'ONU. Chaque année, à une quasi-unanimité, la résolution est adoptée pour réaffirmer la souveraineté des Comores sur Mayotte. Et alors, au départ, c'est exhorter la France de quitter le territoire avec la politique d'usure. Bon, la France est quand même un tout petit peu plus importante à l'ONU géopolitiquement que l'Union des Comores. On va voir d'ailleurs comment ils ont été dévastés politiquement, je devrais dire, enfin, l'État des Comores, qui n'a pas toujours été une union. Chaque année, l'ONU vote à nouveau la réaffirmation de Mayotte comorienne. Et la France doit quitter, puis la France doit s'entendre pour trouver une solution avec les Comores, mais la souveraineté des Comores n'a jamais, jamais été démentie par l'ONU, elle n'a fait qu'être réaffirmée jusqu'à ce que la France ait suffisamment détruit les Comores, ça va être la deuxième partie de mon exposé, comment est-ce qu'on a détruit les Comores, pour qu'ils soient explosés par une crise séparatiste organisée par les services secrets français. Et que les îles se faisant la guerre entre elles, il n'y ait plus moyen de demander à l'ONU de rendre Mayotte à cette poudrière qui est devenue les Comores sous l'impulsion des mercenaires français et autres. Donc voilà, depuis la dernière fois que la question a été traitée à l'ONU, la position n'a jamais été démentie. Mayotte est clairement sous souveraineté comorienne en droit international. Alors vous faites votre opinion pour savoir si vous considérez que ce qui prévaut, c'est le tracé des frontières par l'ONU ou le tracé des frontières unilatérales par la France. Bon, si on veut un monde, si le but c'est que le monde ne soit pas belliqueux, quand même, le choix est absolument incontestable. Notre constitution et tout le droit international auquel on dit ça. On est dans une schizophrénie. Oh ben, Mayotte, c'est quand même autre chose, hein. Bon, allez, on est arrivé à passer. Voilà.